Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble, 90.8.
Vous êtes bien sur les 90.8 de Campus Grenoble. Bienvenue dans l'apérophonie. C'est votre émission culturelle, à l'heure de l'apéro, bien évidemment. Et quelque part, de toute façon, entre Fun Radio et France Culture. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir, je me présente déjà, bien évidemment, Stéphane, je vous présente l'émission Pastorale Mécanique qui est diffusée le lundi entre 20h et 21h. Et aujourd'hui, donc, je suis derrière les manettes de l'apérophonie, si on peut dire, mais parce que je suis assisté par toute une équipe, mais pour accueillir notre ami Paul Barrère. Alors Paul Barrère, ce n'est pas à confondre avec le batteur de Little Feat, qui est décédé il y a quelques mois. Celui-ci, notre Paul Barrère, s'écrit avec un Y, et il est bien vivant, et il est d'ailleurs beaucoup plus jeune que le batteur de Little Feat, et donc ça s'écrit avec un Y, comme le Y grenoblois, parce que c'est un artiste grenoblois, et nous avons déjà accueilli dans cette apérophonie des artistes grenoblois qui ont choisi de faire carrière plutôt dans notre région, au pied des Alpes, mais aujourd'hui c'est un artiste grenoblois qui a choisi de monter à Paris, selon l'expression consacrée. Bonjour Paul.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission.
Merci pour l'invitation.
Et en plus, tu n'es pas venu seul puisque tu es accompagné de ta plus fidèle des compagnes, à six cordes.
J'en suis inséparable, ouais, c'est ma guitare Guild, voilà.
Et bien, vous l'avez compris, Paul nous fera donc un usage de cette guitare. Nous allons donc découvrir sur cette demi-heure et bien cet artiste prolifique avec de multiples projets comme chanteur, musicien donc guitariste, en solo, en duo avec Daphné Critaras, ou en groupe, donc de multiples projets avec de la chanson à texte qu'on peut également qualifier eh bien, de poésie chantée, si l'on peut dire. Et Paul, alors une question banale pour tout artiste, mais essentielle bien sûr pour te comprendre ta démarche, parce qu'en plus on détecte quand même de multiples influences, de multiples styles auxquels tu as affaire. Donc quelles sont tes inspirations ?
Mes inspirations, elles correspondent à mon évolution dans la musique. J'ai commencé avec le jazz, j'ai écouté beaucoup de musique classique et j'ai découvert la chanson française un peu plus tard, je dirais plutôt vers 20 ans. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à, on va dire, au grand nom de la chanson française, Brel, Brassens, Barbara, je pense que ceux qui sont très régulièrement cités. Et je me suis intéressé à la poésie, j'ai commencé à mettre en musique des poèmes. Et en parallèle, j'ai commencé à jouer de la musique orientale, on va dire plutôt grecque, en rencontrant justement Daphné Critaras dont tu parlais. Et c'est quelque chose qui a aussi pas mal influencé ma musique. C'est pas forcément perceptible au premier abord, parce que si c'est pas avec des instruments qu'on a l'habitude d'entendre, on le perçoit pas, mais il y a certaines rythmiques, certains modes qui font appel à ce...
certaines harmonies.
Tout à fait, voilà. Donc c'est plutôt voilà, le jazz, la chanson française, et puis cet apport après des musiques orientales.
Eh bien, pour commencer, je propose qu'on écoute un premier extrait de ton œuvre. Donc, c'est le premier titre, c'est le Paradis d'ici-bas, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Et vous allez l'entendre. Alors ça, c'est un des multiples projets donc de Paul, puisque là, tu es accompagné sur ce titre de plusieurs musiciens. Donc, en l'occurrence, il y a quatre musiciens. Il y a un clavier, une contrebasse, une batterie, c'est ça. Et un guitariste également.
Et un guitariste,
c'est moi. Qui n'est pas toi.
Alors, sur ce morceau, il n'y a pas de guitare, en fait. Et, par contre, on entend de la clarinette turque un peu plus loin. On ne l'entendrait peut-être pas dans l'extrait qu'on a sélectionné. Mais voilà.
Eh bien, on écoute tout de suite « Paradis d'ici-bas ».
Un peu plus, puisque le soleil enfin brille dans ce pays où l'air est si froid. Pour une fois, il se pourrait qu'on se déshabille, qu'on se laisse aller à la plus simple et pure des joies, et que sur l'herbe on s'allonge le temps qu'un rêve nous plonge dans le doux paradis d'ici-bas. Écartons les branches qui entravent le chemin pour rejoindre une étendue paisible, et que doucement je fasse glisser mes deux mains à la surface de ta peau à l'écoute sensible, profitant que se suspende le temps et que se répandent les douceurs de la vie d'ici-bas. Que le soleil couché on redescende dans la ville où les ennuis nous guettent, et que la nuit venue sans relâche on se défende contre tous les désirs qu'à la fin du jour on regrette. Alors profitons des heures, des minutes de bonheur dans le doux paradis d'ici-bas. Calme soudain s'agite à la pensée de la fin du jour. Dors si tu ne sens pas que la peur me parasite. Dors en serrant mes mains plus fort, mon petit amour. Le réveil viendra bien vite et le malheur à sa suite dans le doux paradis d'ici-bas.
Le paradis d'ici-bas. Paul Barrère, qui est notre invité aujourd'hui dans la Pérophonie sur les 90.8 de Campus Grenoble. Paul, ce morceau, c'est quasiment biblique même. On a des thèmes assez intemporels. C'est ton écriture, qu'est-ce qui l'influence? La vie quotidienne, les grands sujets de ce monde, les petites choses de la vie?
Je saurais difficilement dire comment le sujet de mes chansons me viennent. Je pense que ça peut être à partir de n'importe quel moment. Là, en l'occurrence, c'est un sujet très grenoblois, puisque j'étais en train de me balader dans les environs de Grenoble à Belledonne. Et c'était un moment absolument un moment divin. C'était pendant le printemps, il faisait très beau. J'étais avec... avec celle que j'aime, et j'avais un sentiment de plénitude totale, et on s'est allongé dans l'herbe à un moment, et j'ai eu comme une frayeur que ce moment s'arrête. Et ensuite, c'est à travers le sujet continue à mûrir un peu dans mon esprit, fait son chemin, et ensuite une fois que je me mets à composer, ça, je le fais en général d'une traite, en à peu près 2 heures, quelque chose comme ça, et ensuite c'est je pense que c'est l'ensemble des textes que j'ai lus, de ce que j'ai entendu auparavant, qui doit inspirer, guider cette pensée. Voilà.
Et donc c'est plutôt la musique qui va t'inspirer, ou c'est plutôt les paroles qui t'aident à amorcer l'écriture d'une chanson?
Alors moi je fais les deux à la fois, c'est-à-dire que c'est d'abord le thème qui est prioritaire. Je sais ce dont je veux parler, ce que je veux exprimer. Mais ensuite, les premiers mots sont accompagnés par la mélodie, puisque pour moi, le
mot va créer le rythme.
Et voilà, c'est le mot qui va créer la mélodie. Enfin, en tout cas, tout ça doit être vraiment intriqué et fonctionner ensemble. Et une fois que le début de la mélodie est fixé, ensuite, c'est le texte qui doit s'adapter à la musique, à la musicalité de la mélodie, puisque la mélodie reste fixe. Et voilà, c'est comme ça que j'ai procédé pour ce morceau, en tout cas, et comme je le fais habituellement.
Donc, tu as été inspiré par le paysage grenoblois. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, dis-moi, à monter à Paris ? Est-ce que tu as voulu tenter ta chance, devenir riche ? Je crois que tu travaillais dans le monde de la finance ou...
Effectivement, je suis monté à Paris pour faire mes études. Et voilà, j'étais à Sciences Po Paris, j'ai fait un master de finance. Et ensuite, j'ai fait de l'audit financier parce que je voulais... Je voulais être à peu près sûr d'avoir un emploi stable. J'étais assez inquiet de la précarité qu'on pouvait avoir. Et donc j'ai fait ça avec beaucoup d'applications pendant pas mal de temps et continuais en parallèle la musique. Et puis progressivement, la musique a pris de plus en plus de place. Il y a eu évidemment un trou d'air avec le Covid pendant lequel...
Bien évidemment.
Sans complètement arrêter la musique, évidemment, c'était beaucoup plus calme. Et puis après, progressivement, je me suis rendu compte que la musique était fondamentale pour moi et avec toutes les dates qui s'annonçaient pour mon activité de guitariste accompagnateur, voilà, j'ai choisi de sauter le pas.
Eh ben, dis donc, si comme ça tu as des connaissances dans les finances de grandes organisations et si tu es aussi bon communicant parce que tu fais de la musique, il n'y a plus qu'un pas à sauter pour faire de la politique un jour.
Ah, la politique, hein ? Alors ça, je pense pas que ce soit mon domaine. Peut-être un jour, ça peut se...
Et qu'est-ce que c'est que la journée typique d'un musicien à Paris, justement ? Parce que j'imagine que le fait de monter là-bas, ça doit t'ouvrir les portes vers de nombreux contacts, aussi bien les collaborations dont on a parlé, puisque là, tu as l'air d'en amorcer un certain nombre. Et pour tenter aussi ta propre chance toi-même, éventuellement avec des labels à résonance nationale.
Alors pour moi, effectivement, être à Paris, ça permet de... déjà de rencontrer beaucoup de musiciens. Ça, pour moi, c'est vraiment une grande chance parce que c'est une ville cosmopolite. Je dis pas qu'on peut pas trouver aussi des musiciens qui viennent de partout dans le monde dans d'autres villes, mais c'est vrai qu'à Paris, y a un très bon niveau pour que ce soit en jazz, en musique du monde, en musique classique. Tous les musiciens qui nous entourent, par exemple, viennent de d'univers très différents. Il y en a qui ont fait des études de classique. Et par exemple, dans le morceau qu'on entendait, il y avait un clarinettiste turc qui allait jouer, l'autre batteur de jazz. Donc il y a toute cette diversité de musiciens. C'est extrêmement enrichissant de pouvoir jouer avec eux. Et ensuite, du point de vue des contacts, des labels, tout ça, à vrai dire, actuellement, je ne suis pas très avancé. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des projets d'enregistrement et de vidéos, de faire des choses par moi-même. J'ai l'impression qu'il faut arriver à... Pour trouver un label, il faut arriver à montrer qu'on peut avoir un projet rentable assez rapidement, ou alors qui s'inscrit dans quelque chose qui est...
Formaté,
ou alors dans la mode, dans quelque chose qui... On sent que... Il y a un courant en particulier, donc j'ai eu beaucoup de retours de labels qui me disent alors on aime beaucoup cette musique, très beau texte, tout ça, mais ça n'est pas dans l'air du temps. Donc ça va être à moi de leur montrer qu'il y a un public qui peut s'intéresser à ce que je fais.
Alors Paul, écoute, ici on est dans l'intemporalité de toute façon, donc l'air du temps, tu y seras toujours, et c'est la raison pour laquelle tu as amené ta guitare. Alors je te propose... que tu nous joues un morceau, tout simplement, live.
Très bien.
Dans les studios de Campus Grenoble. Alors, je te laisse le choix du numéro.
Alors, très bien. Je vais vous faire une chanson qui n'est pas tout à fait représentative de ce que je fais habituellement. Mais j'ai trouvé que dans le contexte de cette interview, ça pouvait être peut-être amusant et puis être matière à discussion.
Eh bien, c'est parti, on écoute en direct sur les 90.8 de Campus Grenoble. Notre invité dans la pérophonie aujourd'hui, eh bien, c'est Paul Barrère. Paul Barrère avec un Y, comme le Y grenoblois.
Les artistes sont de grands menteurs, et le sont d'autant plus dans leur fort intérieur. Ils croient naïvement à leur expression pure, qui n'est que le reflet de médiocres malheurs, qui n'est que le reflet de petites piqûres, au nom desquelles ils font entendre leurs pleurs. Les artistes ont le beau talent de se croire en ce monde sans équivalent. Ils pourraient bien parler de même plusieurs heures au sujet de leur vie sur un ton nonchalant, au sujet de leur divin génie créateur luttant contre l'ennui d'un monde désolant. Les artistes ont vraiment leur style pour mettre au premier plan leurs idées inutiles. Ils s'offusquent du peu de place qu'on leur donne, du peu d'attention qu'on porte à leur art subtil, du peu d'attention de ceux qui les abandonnent et jugent que le monde est cruel et hostile. Les artistes sont bien trop sensibles et sont pas à l'occasion un peu trop irascibles. Quand on leur fait un commentaire trop trivial, ils maudissent notre société impassible. Ils maudissent cette stupidité joviale que leur lucidité a rendue impossible. Les artistes ont une morale qu'ils daignent exposer dans ton professoral. Et quand on leur reproche ce qu'ils ont pu faire, ils se moquent qu'on distingue le bien du mal. Ils se moquent qu'on puisse leur souhaiter l'enfer en crachant leur mépris sur la pensée banale. J'aurais voulu être un artiste.
Merci Paul, ce n'était pas Luc Plamondo, c'était bien Paul Barrère. Donc sur les 90.8 de Campus Grenoble, dans cette apérophonie qui est consacrée aujourd'hui, donc nous explorons l'univers de ce chanteur-guitariste, et vous l'avez entendu, c'est un guitariste qui est loin d'être manchot, et en plus avec une superbe voix. Alors vous l'entendez, la texture de voix, on n'est pas dans les artistes qui surchantent, comme dans The Voice. On n'est pas non plus dans les artistes, alors que moi-même, ça n'engage que moi, que je qualifierais d'ennuyeux parce qu'il parle plus qu'il ne chante, ou même il chuchote. Là, on est exactement dans l'entre-deux qui marie parfaitement, on va dire, les mots avec cette musique. Et c'est l'avantage d'être à la fois guitariste et chanteur.
Bah, merci beaucoup, en tout cas.
Et alors justement, j'avais vu aussi, pour l'anecdote, que tu as déjà joué, parce que là on parlait quand même de Paris, des contacts que tu peux avoir, de l'univers dans lequel tu peux graviter avec toute cette confrérie musicale que l'on peut trouver à la capitale. J'ai vu que tu avais joué à la salle Pleyel en première partie d'Adamo, c'est ça ?
Oui, alors effectivement j'aurais pu mentionner ça dans... Pour la question précédente au sujet des contacts que j'avais à Paris, des labels, tout ça, j'ai commencé à travailler avec un manager que j'avais contacté sur une plateforme qui s'appelle Groover, à travers laquelle on peut faire écouter ses morceaux à des professionnels et qui font un retour. Donc j'avais été en contact avec un manager qui m'avait trouvé effectivement cette première partie de Salvatore Adamo. Ce n'est pas un artiste que je connaissais vraiment bien, mais...
Tu es trop jeune pour ça.
Je dois être un petit peu jeune, effectivement. D'ailleurs, la moyenne d'âge dans le public était assez élevée. Mais d'ailleurs, c'était un spectacle assez touchant, à vrai dire, parce que... Et même, je dois dire, de qualité, même si voilà, je ne suis pas forcément exactement fan de ce genre d'arrangement. Voilà, pour moi, c'est peut-être un petit peu daté, ça ne correspond pas à ma sensibilité. Mais j'étais touché de voir... que malgré un âge avancé...
Ça, c'est vraiment de la terminologie diplomatique.
L'âge avancé, plutôt de dire qu'il soit vieux, c'est ça. Oui, bon, si ça peut... J'étais en train de penser peut-être si, mais écoute, parce que je lui dois quand même quelque chose, c'est autant arrondir les angles un petit peu. Mais oui, malgré le fait qu'il soit âgé, disons-le, il avait quand même une belle présence, une belle énergie sur scène.
Ouais, parce que Salvatore Adamo, je crois qu'il doit avoir autour de 80 ans maintenant.
Ouais, c'est ça. Et il a toujours chanté avec une seule corde vocale.
Alors qu'on en a... Oui, c'est vrai, j'avais entendu ça.
C'est quand même assez incroyable.
Exactement. Et en plus, oui, bah, plus de 50 ans, 60 ans de carrière même, je crois, le
voilà,
monsieur.
Voilà, ça, c'est quand même, c'est pas à la portée de n'importe qui.
Donc quand même un multiple de ton âge. Bah, en tout cas, on te souhaite d'y arriver. Mais en plus, la salle Playel, c'est quand même une salle particulière parce que c'est plutôt une salle type auditorium. Mm-hmm. On y passe d'ailleurs plutôt de la musique classique, voire du jazz, donc qui convient finalement assez bien à tes propres arrangements.
Alors, peut-être qu'un jour, j'aurai à la salle Playel avec l'orchestre que j'aurais choisi, ça serait génial. Là, en l'occurrence, c'était juste en guitare-voix, mais c'était une expérience effectivement assez impressionnante de jouer dans un lieu aussi renommé, et devant un public nombreux, puisqu'il devait y avoir 2500 personnes dans la salle, je pense, donc c'est assez... C'est assez impressionnant, assez grisant.
Et tu étais tout seul avec ta guitare.
Et j'étais tout seul, voilà.
Alors justement, là on l'entend, tu as joué avec beaucoup d'aisance seul avec ta guitare. On t'a entendu au milieu d'arrangements plus complexes avec plusieurs musiciens. Pour toi, quel est ce qui te correspond le plus, la configuration dans laquelle tu te sens le plus à l'aise ?
Bah forcément, j'ai envie de dire que je voudrais ne pas choisir et vouloir faire les deux. Si je pense que ce qui me représente le mieux, vraiment qui représente mieux mes chansons, c'est probablement guitare-voix, parce que c'est la manière dont elles ont été conçues. Et je pense peut-être là où on entend plus le texte. En revanche, c'est aussi ce qui... nécessite le plus d'attention et pour lequel il est plus difficile de maintenir l'attention du public, d'être accompagné simplement par un seul instrument. Donc je considère que voilà, ce qui me représente le mieux, c'est guitare-voix. Mais ce à quoi j'aspire faire, ce que j'aspire faire, c'est jouer avec un orchestre qui porte, qui amplifie en fait l'émotion qui est contenue dans le texte.
Et dans ton projet avec Daphné Kritaras, qui est probablement la jeune femme dont tu parlais dans la chanson mm-hmm. Paradis d'ici-bas.
Tout à fait.
Là, vous êtes dans des arrangements plutôt, pareil, orchestraux, où tu l'accompagnes seule, toi à la guitare, vous variez les arrangements.
On s'adapte assez bien, c'est-à-dire que quand on joue dans des lieux qui sont plus intimistes, on peut se contenter simplement de guitare et de voix. Mais ensuite, avec Daphné, on est accompagné par souvent par batterie, contrebasse, clavier.
D'accord, donc quand même une grosse section rythmique derrière.
Une grosse section rythmique. Donc quand on joue en festival, par exemple. C'est quelque chose qui est important. Ouais.
Et dans les multiples projets, justement, alors comment est-ce que toi-même tu les gères ? T'es plutôt du genre j'ai plusieurs projets en parallèle, ou est-ce que je les séquence dans le temps où je me dis j'ai une période où je suis solo guitare, une autre où je suis dans un groupe, peut-être dans d'autres projets dans lesquels tu n'es peut-être pas forcément l'artiste mis en avant, je ne sais pas, où tu joues peut-être plus musicien. Et puis, par exemple, lorsque tu joues avec Daphné, mm-hmm. si je...
Eh bien, oui, j'ai plusieurs projets en fait en tant que guitariste accompagnateur. J'en ai un autre avec un musicien, un compositeur grec qui est à Paris. Et puis une chanteuse qui joue plutôt musique du monde. Donc finalement, il y a une partie musique du monde assez importante dans ce que je fais en tant qu'accompagnateur. Et ensuite, mon projet, il mûrit aussi dans le même temps, ce qui est assez compliqué en fait par rapport au rythme qu'on peut avoir dans un travail salarié. C'est que les choses peuvent prendre beaucoup de temps. Et on ne sait pas nécessairement comment anticiper sur certaines choses. C'est une manière de travailler qui est totalement différente. Donc tout se fait un peu en même temps, et tout prend du temps, et les choses sont en décalé, c'est assez fractionné. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est un fonctionnement très, très différent.
Et donc, on le disait, tu es guitariste, tu t'accompagnes. Alors, souvent, la question qu'on pose aux guitaristes, qui est une question très banale, mais toujours finalement très manichéenne, est-ce que tu joues plutôt de la guitare électrique ou plutôt guitare acoustique ? Toi, bon, visiblement, tu joues plutôt de la guitare acoustique. Est-ce que tu joues de l'électrique ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé vers l'électrique ? Et pourquoi, finalement, la guitare acoustique t'attire ?
Alors... C'est étonnant parce que finalement, j'ai joué un peu de guitare électrique quand j'étais adolescent et j'aimais bien ça. Et ensuite, j'ai commencé à jouer de la guitare acoustique. Je pense que pour moi, c'était pratique d'en jouer aussi dans les soirées avec des amis, de l'emporter un peu n'importe où pour une question pratique.
L'ambiance feu de camp,
voilà,
la guitare sur le dos, le troubadour.
Voilà, c'est ça, le cliché complet. Et... Non, ça. Je pense aussi que il y a quelque chose de plus organique, de plus vrai, plus spontané peut-être dans la guitare acoustique. Mais il n'est pas interdit que je me réintéresse à la guitare électrique un peu plus tard. Moi, c'est, l'aspect technique de la guitare n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. À vrai dire, j'ai une bonne guitare Guitar Guild que j'ai achetée. Il y a 10 ans à peu près, elle me satisfait très bien, mais c'est un pan qui m'intéresse pas énormément. C'est curieux, en même temps c'est très important aussi d'avoir un bon son, mais à vrai dire, moi j'ai l'impression que c'est plus à travers le toucher, la manière dont je vais m'approprier l'instrument que ça passe, plutôt que par le choix d'un modèle en particulier ou d'ajouter des pédales d'effet. Voilà.
Bah, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'un bon guitariste électrique se promène avec du matériel presque aussi encombrant que celui du batteur, puisqu'en général, un pedalboard, comme on dit, de guitariste, il y a une douzaine ou une quinzaine de pédales.
Ah oui, donc là,
pour
moi,
un guitariste électrique qui se respecte.
Moi, je suis très tranquille, je prends mon vélo, je prends ma guitare et c'est parti.
Et en général, c'est même plus léger à porter qu'une guitare électrique.
Ah, et en plus, c'est plus léger. Ouais, c'est ça, c'est un tout petit peu plus volumineux, mais c'est vide.
Et bien justement, je te propose qu'on la réutilise, ta guitare acoustique laquelle t'es venu sur le dos.
Très bien, très bien. Alors.
Enfin, la guitare sur le dos, je veux dire, bien évidemment.
Qu'est-ce que je vais jouer ?
Nous l'avons pris au dépourvu, notre ami Paul Barrère, donc qui est aujourd'hui à l'affiche de l'apérophonie.
J'ai quitté la maison à l'aube, le soleil n'était pas levé. La nuit avait été si chaude, il me semblait toujours rêver. Avant de prendre le volant, j'ai vu les nombreuses couleurs. Et dans le ciel, comme coulant, des nuages et leurs lueurs. Alors je me suis souvenu que tu me disais bien souvent de m'arrêter devant la vue, moi qui riais en me sauvant. Souvent aussi tu répétais de ralentir le mouvement. Et moi, idiot, je me disais que nous perdions notre temps. Tu saisissais tout de l'instant, t'enivrant de tes sensations. Sans raison, je restais distant, étranger à ton évasion. Quand résigné à ton absence, je veux promener mon esprit. Je veux au moyen de mes sens trouver ce que le temps m'a pris. Parfois je te cherche en touchant certains tissus dont la texture me rappelle quand, nous couchant, nous défaisions les coutures. Je te cherche dans les odeurs qui se chevauchent d'une à une, mais je me perds dans la torpeur d'une dévorante rancune. Je perds mon regard sur le sol, espérant y trouver des fleurs.
Je voudrais un nouvel alcool, mais rien sauf de tristes couleurs. Parfois je crois que c'est ta voix qui résonne dans ma conscience, mais nous n'avons ni toi ni moi que le coup d'épée du silence.
Il est venu tout seul avec sa guitare sur le dos, Paul Barrère, qui nous fait donc le plaisir d'être aujourd'hui dans les studios de Campus Grenoble sur les 90.8. Et nous arrivons déjà presque au terme de cette émission. Paul, merci beaucoup de ta venue. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sache que parmi les invités que j'ai eus, il y en a qui ont terminé à The Voice quand même cette année. Donc on ne sait jamais. Peut-être que tu vas y terminer aussi, mais encore faut-il y poser sa candidature.
Ah oui, j'ai vu que je me suis fait suivre sur Instagram par le directeur de The Voice. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, si ça m'intéresse ou pas, en tout cas, mais pourquoi pas, peut-être un jour.
Peut-être un jour, en tout cas, ce qu'on aime ici, parce que tu finisses à The Voice ou pas, on te souhaite la plus grande des peines, en tout cas, sur le sujet. Ce qu'on aime, nous, on est la radio quand même du décalage contrôlé, et ce qu'on a perçu, ce qu'on aime, c'est la personnalité, justement, que tu mets dans toute ta musique, et qui est loin du formatage sous lequel on voudrait quand même mettre beaucoup de ces artistes qui passent dans ce genre d'émission, qui ont beaucoup de talent, certes, mais que je pense parfois on essaie de mettre dans un cadre bien précis. Et comme tu dis, c'est souvent une question d'air du temps. Et en tout cas, nous, on apprécie l'intemporalité. On a entendu ces accents même très Brassens dans ta musique, alors à la fois dans l'accompagnement, les textes, et puis ces accents assez baudelairiens dans la poésie de tes textes. Merci Paul, en tout cas, d'être venu.
Merci beaucoup, merci pour votre invitation.
À une prochaine fois, merci à vous d'avoir écouté cette apérophonie en direct, c'était de l'Unplugged en studio avec Paul Barrère. Pour te retrouver sur les réseaux sociaux, donc tu as un Facebook, facebook.com/Paul Barrère, tout simplement. BA2REYRE.
Ouais.
Donc on n'oublie pas le Y, s'il vous plaît.
Ah oui. Hein.
Et puis Instagram, j'imagine.
Et voilà, c'est le même nom, Barrère, BA2REYRE.
Et très bien. Et bien, on te retrouve dessus. Merci encore d'avoir prêté l'oreille sur cette apérophonie spéciale. Moi, je vous retrouve lundi prochain. Sur la même fréquence, je ne vais pas dire même punition parce que ça c'est dans l'émission dans lesquelles j'officie le lundi entre 20h et 21h, ça s'appelle Pastoral Mécanique sur la route poussiéreuse à country du blues, du rock'n'roll et de la surf music. Merci Paul, merci à vous, c'est la radio du décalage contrôlé, les programmes continuent donc sur les 90.8 de Campus Grenoble.
Et c'était quoi ?
L'apérophonie !
Ouais, mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !